principalement les médicaments qui que nous utilisons dépendent des recommandations de l'OMS, mais aussi de la politique nationale de chaque pays. Parce que dans chaque pays, dans chaque milieu, il y a parfois les germes là, les placements d'eau qui connaissent des mutations par rapport à certaines molécules qu'on a utilisées pendant longtemps qui ont créé des résistances. Des résistances parce que le plasmodium lui-même a commencé à résister à certaines molécules. Et comme ça que chaque pays, chaque milieu, surtout chaque pays, a une politique nationale de prise en charge contre les paludes. Et cette politique nationale est orientée et dictée en rapport avec les recommandations de l'OMS. Ces volets curatifs, ces molécules-là, on les donne, ça dépend des problèmes. Que vous devez faire un palud simple ou un palud grave. Si c'est un palud simple, la base, le soubassement ou la base, le fondement du traitement, aujourd'hui, chez nous, on utilise des molécules ou des combinaisons thérapeutiques à base de dérivés d'arténimidine. Donc, si c'est un palud simple, on utilise des combinaisons thérapeutiques à base de dérivés d'arténimidine. Et là, par exemple, dans mon pays, là où je travaille,
en RDC,
par exemple, on va utiliser arténimidine plus amodiaquine ou arténimidine plus d'imipantrine. Mais il faut noter que à ce traitement de base-là, on a joint un antibiotique du genre clindamycine. C'est dans la famille de l'incosamine. Donc c'est la clindamycine qui est conseillée, qui est aussi chisonticide comme les dérivés d'artémisine. Ça, c'est pour des cas de palud simples.
Et pour le palud grave?
Cas de palud grave, donc ce sont des formes compliquées. J'en avais parlé la fois passée. Des gens qui font des anémies, des gens qui font des formes graves, par exemple, insuffisance rénale, tout ça, des malades en coma. Aujourd'hui, c'est recommandé d'utiliser la tégénate injectable. Et qu'on va donner, ça dépend, si le malade est en coma, vous le donnez jusqu'à ce que le malade sera capable de prendre des médicaments par voie orale. Et là encore, vous allez les relayer par les dérivés de la pénicilline quand le malade sera à même de prendre des médicaments par voie orale. Par la pénicilline injectable, on utilise aussi la quinine. Et là, la quinine aussi, on donne ça pendant que le malade n'est pas à même de prendre des médicaments par voie orale. Jusqu'à ce qu'il sera capable de prendre, on va relayer par la quinine en comprimé. Notons que aussi là, on adjoint aussi la clindamycine dont je vous ai parlé comme antibiotique. Et voilà un peu boursé, sommairement, la base des traitements curatifs est le cas du palud.
Docteur, nous avons un auditeur qui veut savoir si les plantes, les légumes, les fruits amers mangés rendent le sang amer et rendent l'organisme incapable de développer le palud. Est-ce que c'est vrai?
Bon, c'est des données pas tout à fait vraies. Mais seulement, il faut noter que dans la pharmacopée, la plupart des médicaments que nous utilisons, ce sont des médicaments dont le principe actif est tiré des plantes. Et si par hasard, un malade est allé prendre une plante qui a des principes actifs schizonticides, donc qui peuvent lutter contre la malaria, c'est seulement à cette hypothèse-là, à mon avis, que ça peut guérir contre les palus. Donc il faut que la plante ou que les décoctions-là que le malade prend aient des principes actifs capables de lutter le nom. Mais sinon, je ne vois pas par quel miracle ça peut arriver à lutter contre les palus. Si c'est une plante médicinale qui a un principe actif où on peut trouver le principe actif peut lutter contre les palus, ça c'est vrai. Parce que vous devez noter que la plupart de nos plantes-là, de nos médicaments-là, qui à partir de la pharmacopée, donc des plantes-là existent partout. Donc il y a des études qui sont en train d'être faites pour justement décider ces questions-là.
On a le même auditeur, Alphonse Mbouaki. Alphonse Mbouaki veut savoir s'il y a une autre option pour la personne qui développe une résistance contre la quinine.
Oui, il y a plusieurs options. Non, je vous ai dit que pour les palus graves, il y a l'artéginate injectable dans notre politique ici, et il y a la quinine. Donc, quelqu'un qui fait une résistance à la quinine, par exemple, les gens qui font des fièvres biliaires hémoglobiniriques, ils développent des résistances en rapport avec la quinine. On leur donne l'artéginate injectable.
Merci. Il y a aussi Haruna Baldé depuis Dakar au Sénégal. Lui, il veut savoir pourquoi jusqu'à maintenant, on ne parvient pas à avoir un vaccin contre le paludisme.
Mais vous savez que la mise en place d'un vaccin demande beaucoup d'histoire. Il faut un capital humain, il faut beaucoup de recherches, il faut beaucoup de moyens. Et même les palus lui-même posent beaucoup de problèmes par rapport aux mutations que connaissent les plasmodiums. C'est comme ça que vous voyez que le vaccin jusque-là est tardé à venir. Mais je pense que les gens qui vont vivre 30 ou 40 ans, ou encore 20 ans, après nous là, ils auront des vaccins. Donc les études sont en cours. Mais il faut vous dire que ce n'est pas un problème simple parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent dedans, des paramètres à rapport avec le capital humain, avec les moyens, et surtout des mutations de plasmodium qui se font d'un milieu à l'autre. Donc vous pouvez mettre un vaccin qui peut être efficace à tel milieu et non à tel autre milieu. On est en train de mettre tout ça ensemble des années, le vaccin va venir.
Merci beaucoup. Et Oumarou Zada Massaoudou, bon, il n'a pas dit de quel pays il est. Il veut savoir si le fait que nous ayons une politique sanitaire pauvre ne contribue pas à rendre le palu comme invincible.
Je vous ai dit en parlant de la politique. La politique, vous faites, c'est tout dedans. Donc, vous voyez les pays pauvres. Les pays pauvres sont susceptibles à faire parce que justement, les moyens ne sont pas encore conséquents, les moyens de lutte ne sont pas encore conséquents ou ne sont pas encore suffisants pour essayer de couper des trajectoires ou bien des cheminements. Donc, nos pays aujourd'hui, les pays d'Afrique, avec tout ce qui se passe, ils sont des pays de faibles revenus, tout ça, où ils n'ont pas beaucoup de moyens et les milieux ne sont pas très bien développés. Ça a de l'impact sur l'apologie ou sur l'émergence de plus en plus accrue du palu. Et ça, c'est évident. Parce qu'au fait, la politique, c'est elle qui gère tout. Quand elle veut être palu quelque part, ça a des répercussions partout.
Alphonse Mouaki revient et demande pourquoi certains produits contre le palu provoquent des avortements chez les femmes enceintes.
C'est vrai. Et certains produits contre le palu peuvent provoquer des avortements. Tout simplement parce que, je ne vais pas aller dans la physiopathologie en profondeur, ces médicaments-là peuvent créer des micro-contractions au niveau de l'utérus. Des micro-contractions-là qui sont dues à une production excessive de prostaglandines. Et les prostaglandines-là, ce sont des petites algues qui sont responsables des contractions utérines et qui peuvent se solder et à la suite par des avortements. Mais je me témoigne que c'est rassurant. Dans tous les hôpitaux, on prend toujours des précautions. Quand on veut donner ces médicaments-là, on les donne aussi des médicaments qui peuvent couper des micro-contractions-là. Donc, on vous donne des antispasmodiques, par exemple, pour couper les contractions qui peuvent induire les antipaludéens pour empêcher à ce qu'il y ait des avortements. Donc, des précautions sont prises, qu'ils soient tranquilles dans des hôpitaux, ça se fait comme ça. Toutes des quantités, des grandes quantités des antipaludéens dans la circulation pour que ça aille induire des vraies contractions.
Docteur Nkieba, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs quelles sont les conséquences d'un palu maltraité ou d'un palu négligé?
Quand un palu est négligé ou est mal soigné, ça vous amène à des formes de complications. Chez un enfant, un nourrisson, ça peut vous amener à des anémies. Et des anémies-là, si vous n'avez pas le sang à votre portée, ça vous entraîne l'enfant directement à la mort. D'autres complications, c'est chez la femme enceinte. La femme enceinte a le palu et elle n'arrive pas, soit d'abord pendant la grossesse, à prendre ses traitements anti-paludéens dans les salles de la prévention. Ça va, le palu va évoluer jusqu'à lui entraîner des avortements. Et après les avortements, si ce sont des avortements, c'est d'abord le fœtus qui est parti. Mais l'avortement, là encore, a des complications sur la mère qui peut faire l'anémie, qui peut décéder de cette anémie. Si ce n'est pas lui grave, chien, ça peut vous amener à un coma. Et le coma, ce sont des situations, surtout dans nos pays, pas faciles à gérer. Donc un coma, si ce n'est pas géré, ça vous amène aussi à la mort. Si ça vous amène à une détresse respiratoire, à une insuffisance rénale, c'est encore compliqué, il faut une dialyse, il faut des moyens, et au finish, c'est le décès. Donc, un palu négligé, c'est une vraie arme à destruction massive, mais parfois qui passe inaperçue.
Docteur Nkieba, nous nous dirigeons vers la fin de notre entretien. Est-ce que vous aviez un conseil spécial à donner à nos auditeurs concernant le palu?
Si je peux donner un conseil à vos auditeurs en ce qui concerne le palu, c'est de dire que le palu, c'est un problème sérieux, surtout dans nos pays pauvres en Afrique. Il faut en prendre conscience à tous les niveaux. Le palu tue, et tue plus que toutes les maladies-là dont les gens font les campagnes nuit et jour. Et si on me demanderait à moi de mener les campagnes aujourd'hui en Afrique, les premières campagnes, pas seulement en Afrique, porteraient sur le palu, qui est la première cause du décès en Afrique, et il tue à petit feu. Le palu est évitable par des mesures que nous avons prises là. Le palu est très dangereux chez la femme enceinte, donc une femme enceinte doit très bien suivre ses CPN, et au cours de ses CPN là, on va prévenir le fœtus. Le palu, donc, quand il n'est pas pris en charge, c'est des dépenses énormes, alors que des familles pouvaient épargner un peu d'argent. Voilà les conseils que je vais donner aux gens. Le palu tue plus que le sida, le palu tue plus que les autres maladies cardiovasculaires, tout ça qui existe, l'ABC. Le palu, c'est un vrai problème qui mérite, qui demande l'attention de tout le monde pour qu'on arrive, si pas à l'éradiquer, au moins à trouver un vaccin qui peut apporter du soulagement au milieu de nos populations.
Merci beaucoup, docteur. Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes les questions de nos auditeurs.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
C'était le docteur Timothée Nkieba, médecin directeur à l'hôpital d'Idjofa dans la province du Bandundu en RD Congo. Vous aussi, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les laisser sur la page Facebook de VOA Afrique avec les questions que vous avez et le médecin de la semaine prochaine y répondra. À présent, carnet de santé avec Linor Moudou.
Coup d'œil sur l'actualité.
Cette semaine, dans Carnet de santé, le paludisme, une maladie grave et parfois mortelle, transmise par des piqûres de moustiques. La plupart des victimes en Afrique sont des enfants de moins de 5 ans. Comment prévenir et traiter le paludisme? Quels sont les défis à relever? Les réponses à vos questions. Nous parlons aussi de la perte de poids. Sauter un repas fait-il vraiment maigrir? Et quelles conséquences sur notre santé? Enfin, selon l'OMS, les enfants de moins de 5 ans devraient passer moins de temps devant les écrans de télé ou d'appareils mobiles. Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur Carnet de santé. Aujourd'hui, nous parlons du paludisme. Aussi appelé malaria, le paludisme est une maladie potentiellement mortelle transmise à l'homme par des piqûres de moustiques femelles infectées. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 219 millions de personnes ont été infectées du paludisme en 2017 avec 435 000 décès. Environ 90% des décès surviennent chez les enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne. Une campagne de vaccination a été lancée récemment au Malawi, suivie du Ghana et du Kenya, afin de tester le premier vaccin antipaludique. Malgré l'espoir qu'il pourrait apporter dans le domaine de la santé publique, le premier vaccin jamais fabriqué contre le paludisme n'a qu'une efficacité de 39%. Je vous propose ce reportage de la Mec Massina à Lilongwe, rendu ici par Muhammadu Umfa.
Les responsables de la santé de l'hôpital communautaire de Likuni au Malawi administrent aux enfants des injections du premier vaccin contre le paludisme en Afrique. La maladie transmise par les moustiques tue plus de 430 000 personnes par an, dont la plupart sont des enfants africains. Il a fallu plus de 30 ans et près d'un milliard de dollars pour développer un vaccin contre le paludisme. Connu sous le nom de RTSS, le vaccin n'est utile que pour les enfants de moins de 2 ans qui reçoivent 4 doses à 5, 6, 7 et 22 mois.
Après avoir effectué des essais cliniques, nous avons examiné plusieurs groupes d'âge. Ce vaccin a été jugé extrêmement efficace chez les enfants âgés de 5 à 22 mois. Pour les autres groupes d'âge, on n'a montré aucune utilité.
Au lancement mardi de la phase pilote de ce vaccin approuvé par l'Organisation mondiale de la santé, l'on pouvait déjà apercevoir une longue file de mères venues faire vacciner leurs enfants. Des mères enthousiasmées par le potentiel de ce vaccin, mais Michael Kayange prévient que les Malawites devront toujours prendre des précautions pour éviter que leurs enfants ne tombent malades du paludisme.
Ce nouveau vaccin n'est qu'un outil supplémentaire pour lutter contre le paludisme et pour son élimination dans le pays. Nous encourageons donc tous ceux qui le recevront, tous les enfants qui le recevront, à utiliser d'autres méthodes de prévention du paludisme, comme dormir sous des moustiquaires, aller à l'hôpital rapidement quand ils ont de la fièvre et des courbatures.
Malgré sa protection partielle contre le paludisme, le vaccin pourrait sauver des millions de vies au Malawi. Le projet pilote sera lancé au Ghana et au Kenya. L'OMS utilisera les résultats pour formuler des recommandations avant que le vaccin ne soit déployé dans d'autres pays touchés par la maladie.
Alors, pour en savoir plus sur le paludisme, nous avons avec nous le docteur Sandrine Ouzé, médecin au service de parasitologie du Centre national de référence du paludisme à Paris. Docteur Ouzé, merci de nous rejoindre. 39% d'immunité que profère ce vaccin, c'est quand même un peu bas. Quelle est votre réaction?
L'objectif du vaccin est éventuellement de limiter les accès graves et donc les décès qui pourrait être observé chez les enfants. Donc le vaccin qui est proposé par l'OMS, qui est soutenu par l'OMS, a pour objectif d'essayer d'obtenir une immunité équivalente à la maladie naturelle, dont on sait pertinemment qu'elle n'est pas de 100%. Donc certes, l'immunité ne sera pas totale, mais l'objectif est d'éviter que ces enfants ne fassent un accès grave qui pourra les conduire au décès.
Donc le vaccin RTSS est recommandé pour les enfants. Néanmoins, nous savons que les femmes enceintes sont aussi particulièrement vulnérables au paludisme. Alors, y a-t-il des recherches en cours à ce moment-là pour la prévention du paludisme chez les femmes enceintes, pour mieux les protéger?
Donc pour la femme enceinte, il y a d'une part les traitements intermittents au cours de la grossesse pour traiter de façon préventive le paludisme chez les femmes enceintes. Et il y a également un vaccin spécifique qui est en cours de développement et d'essai pour le paludisme, ce qu'on appelle le paludisme gestationnel, c'est-à-dire le paludisme de la femme enceinte pour protéger les futures mères et leurs fœtus vis-à-vis du paludisme et leur permettre d'acquérir plus rapidement l'immunité qui n'est habituellement conférés qu'au cours des grossesses et des accès palustres successifs.
Et selon les statistiques, d'énormes progrès ont été faits ces dernières années dans la lutte contre le paludisme. Néanmoins, en 2017, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il y a eu environ 217 millions de cas et plus de 400 000 décès. Alors, quels sont présentement les défis majeurs dans la lutte contre le paludisme? Comment les relever?
Les résultats qui ont quand même permis une diminution nette du nombre de cas et du nombre de décès de paludisme ont été le résultat de plusieurs mesures. Ces mesures doivent être maintenues et il faut surtout que les populations ne se découragent pas et continuent de respecter les recommandations, notamment pour éviter d'être piqué. Éviter d'être piqué, ça évite d'attraper le paludisme et ça évite également que les moustiques se contaminent et aillent ensuite transmettre le paludisme à d'autres personnes. Il faut également utiliser des médicaments qui permettent d'éviter que le parasite puisse se développer chez l'homme et puisse ensuite être à la source de la contamination d'autres moustiques. Il faut également que les populations se fassent dépister pour pouvoir être traitées et donc, là encore, essayer d'éviter que les moustiques ne s'infectent. Lutter et éliminer les moustiques, on sait que ce n'est pas la solution. Donc, il faut éviter que l'homme soit le transmetteur pour le moustique.
Merci, docteur Ouzé, de nous avoir rejoint depuis Paris. Perdre du poids, c'est le souhait de beaucoup d'entre nous, mais comment vous y prenez-vous? Croyez-vous que sauter certains repas peut faire perdre du poids? Nous nous sommes rendus à Abidjan pour votre avis.
En effet, c'est vrai, se passer de certains repas peut faire perdre du poids. Moi, j'évite beaucoup l'huile, les grillotages, bon, les repas huileux. En tout cas, j'évite beaucoup.
Ouais. Je voulais, par exemple, me présenter à un concours. Je suis allée voir un médecin pour perdre du poids. Il m'a dit, ne te complique pas la vie, ne prends pas les comprimés. Fais seulement, mange seulement sainement. Mange, respecte tes trois repas de jour. Et puis, mange moins gras et fais du sport. C'est ce qui m'a été conseillé. J'ai suivi ses conseils et ça a marché. Donc, actuellement, j'ai pas de problème. Je mange sainement et j'ai une très bonne forme. Je me sens bien, en bonne santé avec le sport.
La perte de poids, c'est un sujet qui est sûr de délier les langues. Docteur Aka Félix est médecin nutritionniste en Côte d'Ivoire. Selon lui, il n'est pas nécessaire de sauter des repas. Il faut plutôt faire plus attention aux aliments qu'on consomme. Regardez.
Si par exemple on mange une assiette de légumes crus à midi, carottes, choux, tomates, concombres, huile d'olive, colza, tournesol, un peu de sel de la mer morte ou bien un peu de sel gris, et donc des sels complets. Si on mange cela à midi, avant de manger un aliment cuit, les aliments cuits pour faire perdre des kilos, c'est le poisson, ce sont les œufs, c'est le fromage, et puis en dernier ressort, la viande sur le côté animal. Maintenant, côté végétal, il y a le soja, il y a les champignons, il y a haricots rouges, il y a haricots verts, il y a haricots blancs, il y a les pois chiches et les lentilles. Ça, c'est ce qu'on appelle les protéines végétales, les légumineuses. Il y a quand même un éventail. Et, oh, il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas toutes ces choses, qui mangent viande, poisson pendant 10 ans. Allons-y, ils vont tomber malades. Pourquoi ? Parce qu'il y a des facteurs de carence.
Et évidemment, l'une des règles de base pour perdre du poids, selon les experts, c'est de réduire modérément les apports caloriques, c'est-à-dire d'abord les matières grasses et les sucres rapides. Alors, si vous êtes dans l'air du temps, vous passez sûrement un bon moment de votre journée devant un écran. Et peut-être qu'on peut en dire autant pour votre enfant, mais selon l'OMS, cette habitude peut affecter la santé des plus petits. Les enfants âgés de 2 à 4 ans ne devraient pas avoir droit à plus d'une heure de sédentarité par jour devant les écrans de télé, d'appareils mobiles ou jeux vidéo. Et les nourrissons de moins d'un an ne devraient pas du tout être exposés aux écrans électroniques. Mais vraiment, pas du tout. L'OMS ajoute que les enfants âgés de 1 à 4 ans devraient passer au moins 3 heures à diverses activités physiques réparties tout au long de la journée, notamment courir, faire du vélo ou même jouer avec leurs amis dehors. Être inactif est un facteur de risque majeur de mortalité et contribue au surpoids et à l'obésité. Alors, cette semaine, dans MedActu, une étude récente conduite ici aux États-Unis suggère que les enfants qui développent des caries et la maladie des gencives sont susceptibles de développer des risques de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux, AVC, des décennies plus tard. Après avoir examiné 755 enfants âgés de 8 ans en moyenne, pendant plus de 20 ans, les chercheurs ont trouvé que les enfants qui présentaient au moins un signe d'infection buccale avaient 87% de chances en plus de développer l'athérosclérose subclinique, une maladie de la paroi artérielle qui se développe silencieusement sur plusieurs années pour aboutir finalement à des manifestations cliniques telles que des crises cardiaques ou des AVC. Les infections buccales sont parmi les causes les plus courantes des maladies causées par l'inflammation dans le monde, selon l'étude publiée dans le journal médical JAMA Network Open. Alors, chers jeunes, assurez-vous d'une bonne hygiène dentaire tous les jours. Dans notre prochaine édition de Carnet de santé, nous parlerons plus longuement des accidents cardiovasculaires ou AVC. Si vous avez des questions ou pour vos réactions, rejoignez-nous sur notre page Facebook VOA Afrique ainsi que sur notre site web www.voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormoudou. C'est la fin de cette édition de Carnet de santé. Merci de nous avoir suivis. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.
Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine « Votre santé, votre avenir ». Dans ce second volet de notre série sur le paludisme, nous avons évoqué avec le docteur Timothée Nkieba de l'hôpital d'Idjofa en RDC des modes de prévention, du traitement et des conséquences d'un paludisme non traité ou négligé. Nous vous avions aussi proposé Carnet de santé de Linor Moudou. Ce magazine Santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Thiérot et de Dan Crafton qui étaient à la console. À la présentation, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.